Tout de suite.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, lutte contre le terrorisme. Le représentant de la coalition pour le Sahel fait le point au président du Faso de l'état d'avancement de la feuille de route adoptée par les chefs d'État du G5. La dite feuille de route comprend 4 piliers, notamment celui du développement. La tension ne retombe pas entre Bamako et Paris. Le chef de la diplomatie malienne a convoqué hier l'ambassadeur de France au Mali suite aux propos qualifiés d'inamico et désobligeants du président français. Emmanuel Macron a laissé entendre que sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. Vous l'entendrez dans ce journal. Et au Togo, des sociétés de trading dans le viseur de la justice, elles sont accusées de spoliation qui s'élève à plusieurs milliards de francs CFA. Et puis, il n'y a pas de bisbille entre le FESPACO et le chorégraphe burkinabé Serge-Aimé Koulibaly. C'est ce que dit Salifou Taïta, le directeur de cabinet du ministère en charge de la culture, par ailleurs vice-président du comité national d'organisation du FESPACO. Il est notre invité du jour. Voilà pour les titres, bienvenue. Sécurité pour débuter ce journal et on commence par le message du président du Faso publié hier suite à l'attaque du détachement militaire de Yirgu dans le centre nord où 14 soldats ont été tués dimanche. Roch Kabore a écrit sur sa page Facebook que les Burkinabés restent à jamais déterminés pour défendre leur patrie. Pour le chef de l'État, les cœurs des Burkinabés sont meurtris mais ils resteront à jamais déterminés à défendre leur pays, a-t-il ajouté avant de présenter ses condoléances et un prompt rétablissement aux blessés. On reste avec le président Roch Kabore qui a reçu hier en audience le haut représentant de la coalition pour le Sahel ainsi que le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Ils ont tous fait le point de leurs activités au chef de l'État. Le résumé de ces audiences avec Irène Nikiema et Abdulkader Konaté.
La coalition pour le Sahel prend langue avec le président du Faso Roch Kabore. Contexte sécuritaire oblige. Il est important, selon le représentant de la coalition pour le Sahel, de faire une lecture panoramique sur les défis auxquels font face les pays du Sahel. Jimmy Adoum, haut représentant de la coalition pour le Sahel.
Notre entretien avec le chef de l'État, c'est de voir l'état d'avancement et de parcourir ensemble les grands défis auxquels fait face notre pays, le Burkina Faso. Le Burkina aussi se prépare à son PNDS et ensemble nous avons parcouru le fait qu'il vaille la peine de consolider à la fois la situation sécuritaire, parler de la situation de développement et qu'il n'y ait pas un contre l'autre ou vice-versa, que les deux vont ensemble.
Après lui, c'était au tour du secrétaire exécutif du G5 Sahel d'être reçu par le chef de l'État. Cette visite se veut un cadre pour recueillir les orientations du président du Faso pour une meilleure coordination des activités du G5 Sahel. Éric Thiaré, secrétaire exécutif du G5 Sahel.
Recevoir ces orientations et ces indications par rapport à comment est-ce que nous pouvons mieux travailler au niveau du secrétaire exécutif pour pouvoir remplir la mission qui nous a été confiée, qui est de lutter contre le terrorisme et de travailler pour le développement et le bien-être des populations du G5 Sahel. Il y a des opérations, c'est vrai, coup par coup, mais il y a un plan d'opération qui est prévu et il y aura un prochain, le Conseil de défense et de sécurité, qui va donc examiner donc, le plan qui est retenu et pour voir dans quelle mesure, effectivement, mieux organiser les troupes pour qu'elle puisse être le plus efficace possible.
Les deux délégations ont promis d'œuvrer aux côtés des partenaires techniques et financiers pour lutter efficacement contre le terrorisme.
Et situation sécuritaire au Burkina, les forces armées nationales ont fait le point de leurs interventions dans les différentes zones en proie au terrorisme. Les actions des groupements des forces des secteurs nord, centre et est, ouest et sud ont permis du 29 septembre au 4 octobre 2021 de neutraliser un engin explosif improvisé à Djibo, une trentaine de terroristes et détruire une partie de leur logistique à Mansila dans la province du Yaga. Le bilan des attaques terroristes a quant à lui fait état de 5 soldats tués et un blessé à la hauteur de la localité de Mintao. 14 militaires ont été tués et 7 autres blessés dans une attaque contre le détachement militaire de Yirgu le 4 octobre 2021. et trafic de carburant au profit de groupes terroristes. Selon une source proche du dossier, Mamadi Yonli s'est rendu lundi. En tout, ils sont 5 sur les 9 recherchés à se rendre ou à avoir été arrêtés. Il leur est reproché d'être complices dans la distribution et la vente de carburant aux groupes terroristes. Le calvaire des populations de Poa dans la commune de Kion au Sanguier est fini. Ces populations étaient souvent obligées de parcourir 70 km en saison des pluies à défaut de passer sur le pont en bois pour rallier le chef-lieu de la commune à 15 km de leur village. Maintenant, Poa est à son pont moderne grâce auquel le village est désormais désenclavé. Sabuna Ouedraogo a fait le constat le dimanche dernier pour vous.
Ce pont en bois, pour sa traversée, il fallait de la précision dans les pas et du courage pour ne pas être emporté par les eaux de pluie. Malgré cette prudence, le franchissement de ce viaduc archaïque de 200 mètres a souvent été mortel. Babou Danko, conseiller municipal de Poa.
Pendant l'hivernage, là, on n'a pas accès à Tion, même Rio. Et même pour forcer à passer, il faut que des gens t'aident. Et pour t'aider, si tu veux passer, aller. C'est 1000 francs tu perds. Au retour, si tu perds 1000 francs. S'il y a une évacuation au niveau de la santé, il faut carrément dévier, aller repasser par Dassa. En 2015, il y a une femme qui est morte là-bas parce qu'il voulait passer sur le bois et il est tombé dans l'eau. Il est mort.
Cette infrastructure était une promesse de campagne du candidat Roch Kabore en 2015. Un reportage d'un confrère de l'Observateur Palga sur ce fameux pont en juin 2018 a relancé la nécessité de réaliser un ouvrage définitif pour les villageois. Cyril Zoma, correspondant de l'Observateur Palga à Koudougou.
Ce qui me réjouit, c'est que 4 jours après la publication de notre papier, le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, est venu avec une forte délégation de techniciens et puis bon, de personnes de ressources sur les lieux pour voir la réalisation définitive d'un ouvrage ici.
Ce nouvel ouvrage de près de 900 millions de francs CFA offert par le ministère des Infrastructures est d'une utilité énorme pour les échanges entre Poix et les autres localités.
C'est ma première fois de l'emprunter. Le pont là, vraiment, ça a été une bonne innovation. C'est à saluer en tout cas.
La zone de Poix, c'est la zone économique en matière de production céréalière, la commune.
C'est qu'arrangé notre pont, je les remercie beaucoup. Que Dieu la bénisse.
Et pour encore améliorer l'accessibilité à ce village, il est prévu des travaux d'aménagement de la route Poix-Kion dans les prochains mois et le marché des 10 chantiers est déjà lancé. Sabuna Ouedraogo, de retour de Poix pour Radio Omega.
Tout autre sujet, face aux multiples conséquences des MGF, Saïda International, Voix de Femmes et l'association AWA unissent leurs forces pour organiser une campagne de reconstruction du clitoris et des lèvres en 2022. En prélude à cette campagne dénommée « Leur protection, c'est toi », elles ont animé hier mardi à Ouagadougou une conférence de presse, le point avec Judith Traoré.
Cette campagne de reconstruction clitoridienne est à mettre à l'actif de Saïda International, Voix de Femmes et l'association AWA. Intitulée « Leur protection, c'est toi », cette campagne est novatrice et très bénéfique pour le Burkina. Elodie Tiendre-Beoko, coordinatrice de Saïda International au Burkina, présidente de l'association AWA pour l'épanouissement des filles et des femmes.
Il y aura une formation en allemand, 3 chirurgiens et 2 sages-femmes.
À l'issue donc de leur formation prévue pour débuter en janvier 2022, une fois de retour au Burkina, ces spécialistes de la reconstruction clitoridienne seront chargés d'une part de procéder aux interventions chirurgicales qui auront lieu au cours des mois de mars et d'avril au CHU Bordogo et d'autre part de former leurs collègues qui le voudront. La campagne est entièrement gratuite et accessible à toutes les femmes victimes de mutilations génitales féminines.
Pour toute femme qui aimerait se faire reconstituer, il y a un numéro en ligne qui est au CHU Bordogo. Tous ceux qui veulent aussi se rendre physiquement peuvent le faire.
Chaque jour dans le monde, 11 000 jeunes filles sont victimes de mutilations génitales féminines. Par an, on estime à 4 millions le nombre de jeunes filles qui subissent une MGF. Au Burkina, selon l'enquête démographique et de santé de 2010, 67,3% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une mutilation génitale féminine.
Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali, a réitéré mardi Emmanuel Macron chez nos confrères de France Inter, appelant à ce que l'État revienne au Mali et aussi au Burkina Faso, voisin en proie à des violences récurrentes. Écoutez un extrait des propos du président français Emmanuel Macron.
Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. Je vous le dis très nettement. Si le président Hollande n'avait pas décidé en janvier 2013 d'intervenir avec l'opération Serval à ce moment-là, puis l'opération Barkhane, les terroristes auraient pris le contrôle, d'abord de Bamako, mais tout le pays. J'ai dit aux États de la région, en particulier aux Maliens, notre présence militaire doit évoluer parce que on ne peut pas demander à nos soldats de remplacer ce qui est le travail de vos États, et en particulier de votre État. Et donc ce qu'on a entamé, après avoir accru notre pression militaire, avec des vrais résultats et des vrais succès de nos armées, c'est un travail qui consiste à dire il faut que l'État revienne avec sa justice, son éducation, sa police, partout, en particulier au Mali, mais aussi au Burkina. Il faut que derrière les projets se développent. Sinon, dès qu'on libère un territoire, les terroristes le reprennent, puisqu'il n'y a pas de perspective.
Cette déclaration du président français est qualifiée d'inamicale et désobligeante par Bamako, qui a réagi à travers un communiqué du ministre des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop dit avoir convoqué l'ambassadeur de France au Mali. Aussi, le ministre a invité les autorités françaises à la retenue en évitant des jugements de valeur et appelé à une approche constructive basée sur le respect mutuel en vue de se concentrer sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Peut-on lire dans le communiqué. Et puis, scandale financier au Togo où des sociétés de trading ont fait miroiter des fortunes aux Togolais en les spoliant de plusieurs milliards de francs CFA. Désormais, la justice togolaise est à la traque de ces dirigeants escrocs. La correspondance à Lomé de Eli Atikpo.
Les dégâts sont bien énormes dans la société togolaise où plusieurs sociétés dites de trading ont escroqué leurs clients à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Malgré la fermeture de ces sociétés par le ministère des Finances qui exige d'ailleurs le retour des capitaux aux clients, le statu quo perdure. Désormais, c'est la direction centrale de la police judiciaire et le service central de recherche et d'investigation criminelle de la gendarmerie nationale togolaise qui ont repris la main dans ce dossier en traquant les promoteurs de ces sociétés de trading qui refusent toujours de restituer les capitaux aux clients. Ainsi, les directeurs généraux de DIE Global, Africa Vie, Phoenix ou encore Cassespeak sont tous entre les mains de la justice togolaise. Présenté comme étant un des jeunes milliardaires du pays et du continent, Ghislain Awaga, président directeur général de Global Corporation Trading, est d'ailleurs recherché activement par la police qui a déjà arrêté un directeur de publication présenté comme étant son agent et mis en détention. Eli Atikpo, Lomé pour Radio Omega.
Omega Sport.
L'actualité sportive de ce midi, c'est avec Ibrahim Bailly.
Éliminatoire mondial 2022, les 3e et 4e journées de ces éliminatoires se disputent à partir de cet après-midi. Au grand stade de Marrakech au Maroc, le Soudan accueille la Guinée à partir de 16h. Et à 19h, le Maroc reçoit à Rabat la Guinée-Bissau, un match qui pourrait être reporté. En effet, les Djourtous viennent de passer une nuit blanche suite à une intoxication alimentaire. Nous informe le site Afrique Foot. Des joueurs et des membres du staff ont eu des maux de ventre suivis de diarrhée et de vomissements après avoir dîné mardi, a annoncé le sélectionneur Bassirou Kandé à l'agence de presse sénégalaise APS. Dans ces conditions, je n'enverrai pas les joueurs sur le terrain. Ce serait un acte criminel de ma part, a prévenu le patron de la Fédération Bissau-Guinéenne, Carlos Texera, auprès de Mediasapo. Voilà un nouveau dossier brûlant sur lequel la Confédération africaine de football CAF va devoir se prononcer dans les prochaines heures.
La revue de presse. La revue de presse de ce mercredi 6 octobre est présentée par Asma Odao.
Débutons avec le confrère aujourd'hui au Faso qui écrit Bisbille Mémorial France-Algérie. Macron brandit le drapeau blanc mais prévient. Le confrère estime que dans sa réaction, le président français met bas la terre, mais cette posture ne signifie nullement qu'il abdique et qu'il se taira désormais lorsqu'il doit parler au nom de la jeunesse, note le confrère. Pour sa part, le confrère Le Pays opine sur la visite du patron de Barkhane aux autorités maliennes sur fond de recrutement de mercenaires russes et s'interroge. Paris réussira-t-elle à fléchir la position de Bamako? Et le confrère de se répondre. Quoi qu'il en soit, l'on est curieux de voir jusqu'où ira le bras de fer entre les autorités de la transition malienne et la France. sur une question aussi sensible qui va au-delà des relations entre les deux pays. Et si Doya, le quotidien d'État, ironise sur ces bisbilles diplomatiques comme titré ici « Relations franco-africaines, je t'aime, moi non plus », écrit le journal qui, se référant aux différentes réactions d'autorité de la France tout comme celles de l'Algérie et du Mali, tire cette conclusion. La réaction des deux pays à l'endroit de Paris témoigne que dans bon nombre de pays africains, les populations ne sont plus disposées à supporter les humiliations de la France et elles le font savoir ouvertement. Et qu'il appartient donc à Paris de tirer les conséquences de sa politique extérieure, surtout avec ses ex-colonies, selon Sidoya.
L'invité de la rédaction.
Notre invité du jour est Salifou Taïta, vice-président du comité d'organisation de la 27e édition du FESPACO qui se tiendra du 16 au 23 octobre à Ouagadougou. Selon lui, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour réussir cette édition. Il rencontre certes des difficultés, mais tout va bien. Salifou Taïta se prononce également dans cette interview accordée à Radio Méga sur la mésentente entre le ministère et le chorégraphe Serge Aimé Koulibaly. Il est interrogé par Valérie Guéret.
Salifou Taïta, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le premier vice-président du comité d'organisation du FESPACO. Comment se prépare cette 27e édition du FESPACO?
Les préparatifs du FESPACO, en tout cas, se déroulent très bien. Actuellement, vous êtes témoin que nous avons eu une conférence qu'on a appelée conférence inaugurale qui a été lancée à Ouagadougou, au Ciné-Burkina. Et après, nous avons eu une conférence internationale à Dakar pour lancer le FESPACO au niveau du pays d'invité d'honneur qui est le Sénégal. Et après, nous avons eu aussi une conférence à Cannes qui est en tout cas une belle occasion où tous les grands cinéastes du monde s'y trouvent. Donc aujourd'hui, sur le plan de la communication internationale, je pense que le FESPACO s'est déjà signalé et se tiendra du 16 au 23 octobre 2021. Le comité national d'organisation a été installé. Les 7 jurés officiels, les présents, sont connus. Avec 37 jurés, les films sélectionnés sont connus. On a 239 films sélectionnés sur 1132 films qui étaient inscrits. Et actuellement, le comité national d'organisation tient tous les jours des réunions de cadrage et de recadrage. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase active de préparation du FESPACO et on n'a pas d'obstacle majeur.
Est-ce que tous les invités ont confirmé leur présence?
Depuis Cannes, nous avons des confirmations par voie de mail, par voie de lettre ou par voie de téléphone des invités et les grands cinéastes du monde. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un engouement inédit, en tout cas pour ce FESPACO, que nous pouvons déjà applaudir la participation et nous allons dire que c'est une participation qui va être même comme celle du cinquantenaire.
Certaines informations font état de bisbille entre vous et le chorégraphe Serge Koulibaly. Qu'en est-il exactement?
C'est trop fort de dire qu'il y a des bisbilles entre un chorégraphe et tout un ministère. Non, je pense que c'est pas vrai. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux ce matin où on dit qu'il y a des bisbilles entre Madame le ministre et puis le chorégraphe. D'abord, il faut noter que Madame le ministre n'est pas de la chaîne financière. Madame le ministre est superviseur au niveau du comité national d'organisation. Donc, à ce titre, le comité national d'organisation lui rend compte à travers sa coordination. Et s'il y a des recadrages, elle formule en tout cas des instructions que nous prenons en compte. Donc dans cette lancée, je pense que la chaîne financière a eu à rencontrer le chorégraphe qui avait été, j'allais dire, saisi pour accompagner musicalement et puis artistiquement l'ouverture et la clôture du FESPACO. Mais au regard des montants proposés par le chorégraphe, il était difficile pour le comité d'organisation de ne pas en parler à la superviseure qui devait regarder parce que c'était un peu élevé. Donc je pense que c'était dans la discussion au niveau des prix proposés que le débat s'ouvrait. Maintenant, bon, dans l'impatience des uns et des autres, nous avons vu déjà que sur la toile, c'est inondé. Bon, sinon, je pense que le dialogue n'est pas rompu et que bon, on s'active pour que, en tout cas, le FESPACO se tienne bien, en tout cas avec toutes les couleurs musicales qu'on voudrait souligner.
Selon certaines informations, vous serez à mésentente avec le délégué général du FESPACO qui aurait passé ce marché.
Le FESPACO n'est pas une affaire de directeur général ou de ministre. Le FESPACO est une affaire de nation. Ce sont les premiers responsables du pays qui sont les premiers responsables du FESPACO. Le FESPACO donne l'image du Burkina Faso à travers le monde. Donc, dans cet élan, ça dépasse une envergure d'un directeur général ou d'un ministre. C'est le chef de l'État lui-même. Et vous voyez que le Sénégal est pays invité d'honneur. Est-ce que le ministre peut inviter le Sénégal pour être invité d'honneur ou le DG? Aucun des deux. C'est le chef de l'État lui-même qui a demandé au Sénégal d'être président d'honneur. Donc, ça nous dépasse. Nous ne sommes que la chaîne de l'organisation. Donc, on ne peut pas circonscrire ça à ce niveau. Mais l'implication de Madame la ministre est le fait que le FESPACO a pour tutelle technique le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Donc, il est de bon aloi, il est de ses droits que le Madame le ministre puisse suivre de très près l'organisation du festival à elle confiée par le gouvernement et par le chef de l'État. C'est tout.
FESPACO 2021, qu'est-ce que vous réservez aux cinéphiles burkinabés?
Bon, je pense que le cinquantenaire était vraiment un apothéose total. Et tout le monde a apprécié le cinquantenaire. C'était vraiment riche en couleurs. Et c'est le premier festival après le cinquantenaire. Ça veut dire que c'est une renaissance. Et dans cet élan de renaissance, le ministère, avec la direction générale du FESFACO, en tout cas, va mettre les petits plats dans les grands. Et je m'en voudrais déjà de vous dévoiler ce qui va se passer parce que ça va donner un avant-goût. Je préfère que vous fassiez tout pour qu'il y ait un matraquage médiatique autour de cet événement et que les gens soient présents pour découvrir.
Nous sommes dans un contexte assez difficile actuellement avec le contexte sécuritaire. Est-ce que cela ne pourrait pas jouer un peu sur ce festival? Et quelles sont les mesures qui ont été prises?
Oui, vous savez déjà que le FESFACO a été reporté pour la raison de Covid qui est une situation mondiale. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso que la crise sanitaire s'est installée. Donc nous allons nous conformer aux normes internationales par rapport aux mesures barrières et à toutes les dispositions à prendre pour que les festivaliers puissent passer un FESFACO sans grande contamination du Covid. Ça veut dire que les gens auront leur passe sanitaire, les gens auront leur test PCR pour, en tout cas, se mettre en sécurité et puis sécuriser aussi les autres. Sur les plans sécuritaires, les responsables de la sécurité de notre pays, en tout cas, s'activent pour que le FESFACO soit un FESFACO sans difficulté majeure.
Salifou Teïta, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était le vice-président du comité d'organisation de la 27e édition du FESPACO au micro de Valérie Guéré. Fin de ce journal réalisé par Bourema Maïga à la retransmission Facebook Yaya Diomandé. Merci de votre attention et bon après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.
Omega.